Chapitre 3. Avant l'heure du dîner, le lieutenant passa par le bazar, et après avoir obstinément marchandé, il acheta une petite croix en or pendue à un ruban de velours noir. Bien qu'elle affirme, se disait-il, qu'il ne lui faut aucun cadeau, nous savons ce que cela veut dire. Du reste, si elle a une âme si désintéressée, Émilie ne fera pas fi de l'objet. Vers les 6 heures du soir, le lieutenant se rasa avec un soin extrême, envoya chercher un coiffeur du voisinage et lui recommanda de bien friser et bien pommader son toupet, ce que l'autre fit en conscience et sans épargner le papier officiel du gouvernement dont il fit des papillotes. Ensuite, le lieutenant endossa son uniforme le plus neuf, prit dans sa main droite une paire de gants qu'il n'avait pas encore portés, et après s'être bien aspergé d'eau de lavande, il sortit de la maison. S'il avait soigné sa toilette beaucoup plus que lorsqu'il faisait la cour à Zuckerpüppchen, ce n'était que Colibri lui plut davantage. Mais il y avait dans celle-ci quelque chose qui excitait même l'imagination paresseuse de notre officier. Madame Fritzsche vient à sa rencontre, selon sa coutume, et comme s'ils se fussent mis d'accord pour un mensonge convenu, elle lui annonça qu'Émilie s'était encore absentée pour quelques instants et qu'elle priait de l'attendre. Le lieutenant inclina la tête en signe d'assentiment et prit place sur une chaise. Madame Fritzsche sourit de nouveau, c'est-à-dire montra ses longues dents jaunes, et se retira, mais sans lui offrir de chocolat cette fois. Aussitôt, le lieutenant fixa ses regards sur la porte mystérieuse. Elle restait fermée. Il toussa 2 fois pour annoncer son arrivée. La porte ne s'ouvrit point. Il retint sa respiration, tendit l'oreille. Rien. Pas le moindre léger bruit, on eût dit que tout était mort alentour. Le lieutenant se leva, s'avança sur la pointe des pieds vers la porte, chercha à tâtons le bouton de la serrure, et n'en trouvant pas, poussa la porte du genou. Elle résista. Il se pencha alors et, d'une voix basse, étranglée, il prononça 2 fois « Colibri, Colibri !» Aucune réponse. Alors il se releva, tira des 2 côtés les basses de son uniforme, puis frappant cette fois du talon sur le plancher, revint près de la fenêtre et se mit à tambouriner sur les vitres d'un air dépité. L'honneur militaire blessé se révoltait en lui. « Mais diable, qui me prend-on ? Oh, s'il en est ainsi, je vais frapper à poing fermé, elle sera bien obligée d'ouvrir. Et si la vieille sorcière nous entend, ma foi, tant pis, ce sera pas de ma faute. » Il fit brusquement volte-face. La porte était ouverte à demi. Aussitôt, le lieutenant, se remettant sur la pointe des pieds, s'élança vers la chambre secrète. Sur le sofa, vêtu d'une robe d'un jaune éclatant, la taille serrée par une large ceinture rouge, était couché Colibri, qui, se cachant le bas du visage avec son mouchoir, riait aux larmes, mais sans bruit. Elle avait cette fois-ci arrangé sa chevelure. Elle en avait fait 2 grosses et longues tresses entrelacées de rubans rouges. Ses souliers rouges de la veille se voyaient à ses petits pieds qu'elle tenait croisés l'un sur l'autre. Mais les pieds étaient nus. On eût dit qu'elle avait mis des bas de soie brune. Le sofa était placé autrement que la veille, plus près du mur. Et sur la table, un plateau du Japon portait une cafetière au large ventre, un sucrier en cristal taillé et 2 toutes petites tasses en porcelaine bleue. Sur la même table était posée la guitare, et une fumée grisâtre s'élevait en fine spirale de la pointe d'une pastille du sérail. Le lieutenant, qui avait embrassé tous ces objets du premier regard, s'approcha du divan. Mais avant qu'il eût le temps de prononcer une parole, Colibri avança la main sans cesser de rire dans son mouchoir, et enfonçant ses petits doigts durs dans les cheveux du lieutenant, détruisit d'un tour de poignet tout le bel édifice de sa coiffure. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria le lieutenant, fort peu satisfait d'une familiarité si déplacée. Mais voyez-vous l'effronter ? Colibri découvrit son visage.
Auparavant mal, dit-elle, comme cela mieux.
Elle se recula vers un bout du sofa et replia ses jambes sous elle.
Asseyez-vous là, là-bas.
Le lieutenant s'assit dans la place qu'elle lui désignait. Et pourquoi donc m'éloignes-tu ? Demanda-t-il après un court silence. As-tu peur de moi ? Colibri se pelotonna comme un chat et le regarda de côté.
Moi, oh non !
Mais tu ne dois pas faire ainsi la sauvage, continua le lieutenant d'un ton paterne. Tu te souviens, n'est-ce pas, de ta promesse d'hier ? Colibri serra ses deux genoux dans ses bras, posa sa tête dessus et regarda encore de côté.
Je me souviens.
Alors dans ce cas, fit Ergunov prêt à s'avancer.
Pas si vite, signore.
Colibri dégagea ses tresses de cheveux dont elle avait enlacé ses genoux et du bout de l'une d'elles lui cingla la main. Le lieutenant resta tout penaud. « Quels yeux là, la mauvaise » murmura-t-il involontairement. « Mais alors, pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» Colibri tendit le cou avec un mouvement d'oiseau et se mit aux écoutes. « Émilie ?» dit le lieutenant d'un air effaré. « Quelque autre ?» Colibri haussa les épaules. « Mais tu entends quelque chose ?» reprit Ergunov.
« Non, rien. »
Elle retira avec un autre mouvement d'oiseau sa petite tête de forme allongée, dont les tresses épaisses étaient séparées par une raie soigneusement faite, qui se perdait en un fouillis de petits cheveux frisés couvrant la nuque.
« Non, rien !»
répéta-t-elle en se pelotonnant de nouveau. « Personne !» dit le lieutenant. « Je puis donc... » Il étendit la main et la retira aussitôt. Une goutte de sang se voyait sur son doigt. « Oh, quelle bêtise » s'écria-t-il en secouant la main. « Toujours vos éternelles épingles !»« Mais quelle maudite épingle est-ce cela » ajouta-t-il, en voyant une espèce de dard en or qu'elle replaçait dans sa ceinture. « Mais c'est un poignard, c'est un aiguillon. Et toi, t'es une guêpe, entends-tu, une guêpe ?» Colibri sembla goûter fort la comparaison du lieutenant. Elle rit de son petit rire cristallin.
« Oui, je piquerai. »
Yergunov la regarda de travers. « Elle rit, pensa-t-il, et le visage reste toujours triste. « Regarde un peu ceci, » ajouta-t-il à haute voix.
« Quoi ?»
demanda Colibri avec son expression enfantine. « Ceci !» Et le lieutenant tira de sa poche la petite croix d'or, qu'il fit briller en la tournant en l'air entre ses doigts. « C'est joli, n'est-ce pas ?» Colibri leva les yeux d'un air d'indifférence.
« Oh, une croix, » dit-elle, « nous n'en portons pas. »«
Mais comment, vous ne portez pas de croix ? Tu es donc une juive ou une turque ?»«
Nous n'en portons pas, » répéta Colibri.
Puis se levant tout à coup et regardant en arrière par-dessus son épaule,
« Voulez-vous que je chante ? Je vais chanter. »
Le lieutenant remit précipitamment la croix dans sa poche et se retourna aussi, car il avait cru entendre une sorte de craquement dans le mur. « Quel bruit fait-on là ?»«
Souris, une souris !»
se hâta de répondre Colibri. Puis, de la façon la plus inopinée pour le lieutenant, elle lui enlaça la tête de ses bras souples et lisses, et d'un rapide baiser lui brûla la joue comme avec un fer rouge. Il serra Colibri à son tour, mais elle glissa de son étreinte comme un serpent, chose facile avec sa taille mince et onduleuse.
« Attends, attends, » dit-elle à voix basse, « auparavant du café. »
« Quelle idée ! Et après ?
Oh non, tout de suite, à présent, brûlant, froid plus tard. »
Elle saisit la cafetière par l'anse et se mit à verser de haut dans les deux tasses. Le café tombait en jets tordus et fumants,
Et Colibri, penchant la tête sur son épaule, le regardait tomber. Yelgunov jeta un morceau de sucre dans la tasse qu'il avala d'un trait. Le café lui sembla très fort et très amer. Colibri le regardait faire en souriant et en dilatant ses narines au-dessus de la tasse qu'elle avait portée à ses lèvres et qu'elle reposa lentement sur la table. « Et pourquoi ne bois-tu pas ?» demanda le lieutenant.
« Moi, peu à peu. »
« Mais voyons, assieds-toi donc enfin près de moi, » dit le lieutenant en frappant de la main sur le sofa.
Un instant,
elle étendit la main et, sans quitter Yelgunov des yeux, elle prit sa guitare.
« Avant, je vais chanter. »«
Oui, oui, mais assieds-toi. »«
Et je vais danser, veux-tu ?»«
Oh, tu danses ? Je voudrais bien voir cela, mais pourtant, si tu dansais après... »
Non, non, mais je t'aime beaucoup, moi.
Vraiment, allons, danse, obstiné que tu es. Colibri se plaça de l'autre côté de la table et après avoir pincé quelques accords, elle entonna, à la grande surprise du lieutenant, qui attendait quelques chansons gaies et animées, une sorte de récitatif lent et monotone, accompagnant chacun des sons qui semblaient sortir avec effort de son gosier, d'un balancement mesuré de tout son corps à droite et à gauche. Elle ne souriait point. Elle avait même rapproché ses sourcils hauts et arqués, entre lesquels souriait distinctement un petit signe de couleur bleue, semblable à une lettre de quelque langue orientale qui avait été probablement tracée avec de la poudre. Elle avait presque fermé les yeux. Mais ses prunelles brillaient encore d'un éclat morne entre ses paupières abaissées, et elle s'obstinait à regarder le lieutenant avec la même fixité. Lui aussi ne pouvait détacher les yeux de ses yeux magnifiques et menaçants, de ce visage basané qu'une faible rougeur colorait de plus en plus, de ses lèvres à demi ouvertes et immobiles, de ses serpents noirs qui se balançaient en cadence aux deux côtés de cette tête élégante. Colibri continuait ses mouvements sans quitter la place. Ses pieds ne faisaient que se soulever, tantôt sur la pointe, tantôt sur le talon. Une fois seulement, elle se tourna avec violence et poussa un cri perçant en agitant la guitare au-dessus de sa tête, et de nouveau reprit la même danse balancée avec le même chant lent et monotone. Cependant, Yelgunov était assis très commodément sur le sofa et continuait sans mot dire à regarder Colibri. Il éprouvait une sensation étrange et inaccoutumée. Il se sentait léger, libre, presque trop léger. Il n'avait plus de corps, il nageait dans l'espace. En même temps, de petites fourmis froides lui glissaient le long du dos. Je ne sais quelle agréable défaillance énervait ses jambes. Et la somnolence lui chatouillait les coins des lèvres et des yeux. Il ne désirait plus rien, ne pensait plus à rien. Il se sentait bercé doucement et murmurait du bout des lèvres « Oh, mon petit joujou !» Mais de temps à autre, le visage du petit joujou semblait se voiler. « Mais pourquoi donc ?» se disait le lieutenant. « Ah, c'est de la fumée. Oui, il y a ici de la fumée bleue. » Et quelqu'un se remettait à le bercer, à lui murmurer à l'oreille des mots agréables qui commençaient et ne finissaient point. Mais voilà que tout à coup, il voit les yeux du petit joujou s'ouvrir énormes, d'une grandeur démesurée comme les arches d'un pont. La guitare roula et se heurtant sur le plancher sembla résonner des dernières profondeurs de l'abîme. Je ne sais quel ami, le plus intime du lieutenant, l'embrassa tendrement et fortement par derrière et lui arrangea le nœud de sa cravate. Puis il aperçut, tout contre son visage, les moustaches épaisses, le nez crochu et les yeux perçants de l'inconnu aux trois boutons d'argent. Et bien que les yeux fussent à la place des moustaches et les moustaches à la place des yeux, bien que le nez fût également renversé, le lieutenant ne s'en étonna point. Il trouva même que ce devait être ainsi, et fut sur le point de dire à ce nez « Bonjour, frère Grégoire, mais il ajourna cette intention et préféra partir immédiatement avec Colibri pour Constantinople afin d'y célébrer leur mariage. Colibri étant turc et lui venant d'être fait mahométan, cela lui fut d'autant plus facile qu'un petit bateau se présenta. Il y porta le pied et, bien que par maladresse il se fût heurté à ce point qu'il ressentit une douleur si vive qu'il ne savait plus où étaient ses membres, il se remit en équilibre et, s'étant assis sur un petit banc qui se trouvait à la poupe du bateau, il se mit à descendre ce même grand fleuve qui, sous le nom de fleuve du temps, se voit accroché dans les collèges de Nikolaïev et qui mène droit à Constantinople. Cette navigation lui causait un plaisir extrême. Il rencontrait à chaque instant de grandes sarcelles rouges qui, par malheur, ne le laissaient pas approcher et plongeaient aussitôt, ne laissant à leur place que de larges taches sanguinolentes. Colibri voyageait avec lui, mais, désireuse d'éviter la chaleur, elle avait pris place dans l'intérieur du bateau et, de temps en temps, frappait de petits coups contre le fond. Voici enfin Constantinople. Les maisons sont comme il convient aux maisons d'être en forme de chapeau tyrolien, et tous les Turcs ont des faces si larges et si graves. Cependant, il ne faut pas les regarder trop longtemps. Bientôt elles se déforment, font des grimaces et fondent comme des tas de neige au printemps. Voici le palais qu'il va habiter avec Colibri. Oh, comme tout y est bien arrangé! Des épaulettes partout, des soldats chevronnés sonnant de la trompette dans tous les coins, et naturellement sur tous les murs, le portrait de Mahomet en général russe. Mais pourquoi Colibri court-elle devant lui, de chambre en chambre, traînant ses queues après elle? Et pourquoi ne veut-elle pas se retourner? Et puis elles rapetissent toujours. Ce n'est plus Colibri, c'est un petit gentilhomme en veste ronde, et il est son gouverneur. Et le voilà forcé de grimper après lui dans l'intérieur d'une lunette d'approche. Et cette lunette se resserre de plus en plus. On ne peut plus s'y mouvoir, ni en avant, ni en arrière. On ne peut plus respirer, et un poids énorme s'écroule sur son dos. Il a la bouche pleine de terre.
Chapitre 4. Le lieutenant ouvre enfin les yeux. Il fait clair et tout est calme autour de lui. Cela sent le vinaigre, la menthe. Au-dessus, à droite, à gauche, quelque chose de blanc l'enveloppe. Il regarde, il examine. Ce sont les rideaux d'un lit. Il veut soulever la tête, impossible. La main, impossible également. Qu'est-ce que cela signifie? Il baisse les yeux. Un long corps est étendu devant lui, caché sous une couverture en laine grossière avec des bandes brunes aux deux bouts. Ce corps, vérification faite, est le sien même. Il essaie de pousser un cri, rien ne sort. Il essaye de nouveau, il rassemble toutes ses forces. Une espèce de son décrépit tremblote sous son nez. Des pas lourds se font entendre, une main écarte le rideau. Un vieil invalide, vêtu d'une redingote militaire rapiécée, se tient devant le lieutenant. Tous deux semblent diversement étonnés. Une grande cruche d'étain vient s'appliquer sur les lèvres du lieutenant, qui boit de l'eau fraîche avec avidité. Sa langue se délie. « Mais où suis-je ? » L'invalide le regarde une seconde fois, s'éloigne et revient avec un autre homme en uniforme. « Mais où suis-je ? » répète le lieutenant. « Bon, non, il n'en mourra pas, » dit l'homme en uniforme. « Vous êtes à l'hôpital, » reprit-il à voix haute. « Mais il ne faut pas parler. Taisez-vous et dormez. » Le lieutenant va s'étonner encore, mais il retombe dans le néant. Le lendemain apparut le médecin de l'hôpital. Yergunov avait repris ses sens. Le docteur le félicita de sa guérison et commanda que l'on changeât les bandages qui enveloppaient sa tête. « Comment, la tête, est-ce que j'ai quelque chose ?»« Vous ne devez point parler, interrompit le docteur, ni vous agiter. Restez tranquille et remerciez le Très-Haut. Où sont les compresses, Popov ?»«
Mais l'argent de la couronne. »
« Allons, voilà qu'il délire de nouveau. De la glace, Popov, encore de la glace !» Une semaine se passa. Le lieutenant était assez remis pour qu'on crût pouvoir lui révéler ce qui lui était arrivé. Et voici ce qu'il apprit. Le 16 juin, à 7 heures du soir, avait eu lieu sa dernière visite chez Madame Fritsche et le 17, vers l'heure du dîner, c'est-à-dire presque 24 heures plus tard, un berger l'avait trouvé dans un ravin près de la grande route de Kherson, à 2 verstes environ de Nikolaïev, sans connaissance, la tête fendue et des taches bleuâtres autour du cou. Son uniforme et son gilet étaient déboutonnés, toutes les poches retournées, son shako et son poignard avaient disparu, ainsi que sa ceinture de cuir. À en juger par l'herbe foulée et par une large trace laissée dans le sable et la terre glaise, le lieutenant avait dû être traîné de la route jusqu'au fond du ravin, et là seulement lui avait porté sur la tête un coup avec une arme tranchante, peut-être avec son propre poignard. En effet, sur toute la trace, on n'avait pas vu une seule goutte de sang, tandis qu'autour de sa tête, il s'en était trouvé toute une mare. Les assassins avaient dû d'abord lui faire perdre connaissance, puis essayer de l'étrangler. Ensuite, l'ayant porté hors de la ville, il lui avait asséné le dernier coup au fond du ravin. Le lieutenant n'avait échappé à la mort que grâce à son tempérament de fer, car il n'avait repris connaissance que le 23 juillet, 5 semaines après l'événement. Yergunov fit immédiatement son rapport à l'autorité, raconta par écrit et verbalement toutes les circonstances du malheur qui l'avait frappé et indiqua clairement la maison de Madame Fritsche. La police y courut, mais n'y trouva plus personne. Les oiseaux avaient déjà quitté le nid. On empoigna le maître de la maison, on le traîna devant la justice. On ne put tirer grand-chose de cet homme, bourgeois de la ville, extrêmement vieux et non moins sourd. Il habitait lui-même un autre quartier de Nikolaïev, et tout ce qu'il savait, c'est que, 4 mois auparavant, il avait loué sa maison à une juive pour survue d'un passeport et nommée Shmoul ou Shmoulke, et qu'il avait, selon son devoir, immédiatement déclaré à la police. Une jeune fille, ajouta-t-il dans sa déposition, également pourvue d'un passeport, et était venue rejoindre la vieille juive. Quel était le métier de ces femmes? Il n'en savait rien. Avait-elle d'autres locataires? Il ne savait pas davantage. Et quant au petit garçon qui avait été le gardien de sa maison, il était parti pour Odessa ou pour Pétersbourg ou pour toute autre ville. Le nouveau gardien n'était entré en fonction qu'au 1er juillet. On fit alors des recherches sur les registres de la police et des investigations dans le voisinage, et l'on apprit que la Schmulke, avec sa compagne, dont le vrai nom paraissait être Frederica Bengel, avait quitté Nikolaïev vers le 20 juin pour une destination inconnue. Quant à l'homme mystérieux, à la mine de bohémien et aux 3 boutons d'argent, ainsi que la fille étrangère au teint basané et à la grosse tresse de cheveux, personne ne les avait vus ou personne n'osa l'avouer. Dès que le lieutenant put sortir de l'hôpital, il alla revoir lui-même la maison qui lui avait été si fatale. Dans la petite chambre où il avait eu ses causeries avec Colibri et qui sentait encore l'odeur du musc, on avait découvert une autre petite porte contre laquelle, à sa seconde visite, avait été adossé le sofa, et par où, selon toute vraisemblance, était entré l'assassin. Le lieutenant présenta aussitôt une supplique en forme. L'enquête commença. Une foule d'ordonnances portant les numéros de leur série fut rendue et communiquée dans toutes les directions. Une foule de réponses, également numérotées, revinrent en temps et lieu. Mais ce fut tout. Les personnes suspectes avaient disparu et avec elles l'argent de la couronne, s'élevant à 1917 roubles et plusieurs kopecks, somme assez importante à cette époque. Et pendant 10 années, le malheureux lieutenant subit des retenues pour restituer la somme jusqu'à ce qu'enfin il eut la chance d'en acquitter le reliquat à la faveur d'une amnistie qui étendit sa grâce sur lui. Dans les premiers temps, il était resté fermement convaincu que la cause de tout le malheur, que la tête de la conspiration ourdie contre lui, avait été Émilie, sa perfide Zuckerpüppchen. Il se souvenait que le jour de sa dernière entrevue avec elle, il s'était imprudemment endormi sur le sofa, qu'à son réveil, il avait remarqué le trouble de cette femme, et que le soir même, il avait découvert cette fente faite à sa ceinture, évidemment avec les ciseaux qu'elle avait cachés dans sa poche. « Elle a tout vu !» se disait-il. « Elle leur a dit à cette vieille diablesse et à ces deux autres démons. Elle m'a tendu un piège en m'écrivant cette lettre, et je me suis livré. Mais qui aurait pu s'attendre à cela d'elle ?» Alors il se représentait le bon et joli visage d'Émilie, ses yeux clairs et riants. « Oh, femme, femme » répétait-il en grinçant des dents, « race de crocodile !» Mais lorsqu'il eut quitté définitivement l'hôpital pour entrer dans son logement, il apprit une circonstance qui dérouta complètement ses conjectures. Le jour même où on l'avait ramené dans la ville plus qu'à demi-mort, une jeune fille, qui d'après tous les signalements donnés était le propre portrait d'Émilie, était accourue tout en larmes et les cheveux épars à la maison du lieutenant, d'où, ayant demandé des nouvelles à son brosseur, elle était partie comme une folle pour l'hôpital. Et là, on lui dit que le lieutenant ne passerait pas la journée, et elle disparut aussitôt en se tordant les bras et en donnant tous les signes du plus violent désespoir. Il devenait donc évident qu'elle ne s'était point attendue à l'assassinat. Ou bien l'aurait-on trompée elle-même? N'aurait-elle point reçu sa part? Le remords se serait-il éveillé en elle? Et pourtant, elle avait quitté Nikolaïev avec cette abominable vieille qui devait certainement être au courant de tout. Le lieutenant ne savait que penser, et il n'ennuya pas peu souvent son brosseur en lui faisant répéter le signalement de la jeune fille et les paroles qu'elle lui avait dites. 18 mois plus tard, le lieutenant reçut d'Émilie, alias Frederica Bengel, une lettre en allemand qui se fit traduire aussitôt et que depuis il nous montra plus d'une fois. Elle était toute émaillée de fautes d'orthographe, mais surtout de points d'exclamation. L'enveloppe portait le timbre de Breslau. Voici la traduction à peu près fidèle. « Mon cher et incomparable Florestan, Monsieur le lieutenant Jorgenhoff, combien de fois me suis-je juré de vous écrire, et toujours à mon grand regret j'ai remis, quoique l'idée que vous puissiez me tenir pour complice de ce crime affreux, a toujours été pour moi la plus affreuse pensée. Oh, mon cher monsieur le lieutenant, croyez-moi, le jour où j'ai appris que vous étiez sain et sauf a été le plus beau jour de ma vie. Mais je ne puis prétendre à me justifier complètement. Je ne veux pas mentir. C'est moi, en effet, qui ai découvert votre habitude de porter votre argent sur votre estomac. Du reste, dans nos contrées, tous les bouchers et marchands de bestiaux font de même. Et j'ai eu l'imprudence d'en parler. J'ai même dit, comme par plaisanterie, qu'il n'y aurait pas grand mal à vous prendre un peu de cette somme. La vieille sorcière, oh, monsieur Florestan, elle n'était pas ma tante, entra immédiatement en conspiration avec ce monstre impie de Luigi et son autre complice. Je vous jure, sur le tombeau de ma mère, qui était une honnête femme, pas comme moi, que j'ignore jusqu'à présent quels étaient ces gens. Tout ce que je sais, c'est que lui se nommait Luigi et qu'ils étaient arrivés tous deux de Bucarest, et que c'étaient certainement de grands criminels, car ils se cachaient de la police, ils avaient de l'argent et des objets précieux. Ce Luigi était un terrible personnage. Tuer son semblable n'était rien pour lui. Il parlait toutes les langues et c'est lui qui a écrit ma lettre. C'est lui qui a recouvré les objets volés par la cuisinière. Il pouvait faire tout, tout, tout. C'était un terrible personnage. Il a persuadé à la vieille qu'il ne ferait que vous étourdir un peu en vous donnant une certaine boisson. Qu'ensuite il vous emmènerait hors de la ville et dirait qu'il ne sait rien, que c'est vous qui avez pris un peu trop de vin. Mais le scélérat avait déjà dans l'esprit qu'il valait mieux vous faire un mauvais parti pour qu'après aucun coq n'en pût rien chanter. Il écrivit cette horrible lettre et la vieille m'éloigna par ruse, et je puis dire par force. Je ne soupçonnais rien, et j'avais une peur horrible de ce Luigi qui me disait « Je te couperai le cou comme un poulet !» Et en disant cela, il remet si affreusement ses moustaches. Et voilà comment, par ruse, on m'a emmené dans une certaine société. Oh, monsieur Florestan, j'ai bien honte et je pleure des larmes bien amères, car il me semble que je n'étais pas né pour un semblable métier. La pensée que j'avais été jusqu'à un certain point la cause de votre malheur m'a rendu presque folle, et pourtant je suis parti avec ces gens-là. Car si la police nous avait découvert, que serais-je devenu? Mais bientôt je les ai quittés tous, et quoique maintenant je vive dans la misère, souvent sans un morceau de pain, mon âme est tranquille. Ne me demandez pas pourquoi j'étais venu moi-même à Nikolaïev. Je ne pourrais répondre. J'ai prêté un serment terrible. Je finis ma lettre par une supplication, monsieur Florestan. De grâce, si jamais vous pensez à votre pauvre petite Émilie, ne pensez à elle comme à une noire scélérate. Le Dieu éternel voit mon cœur en ce moment. J'ai une mauvaise moralité, je suis légère, mais je ne suis pas méchante. Et je vous aimerai toujours, mon incomparable Florestan. Et je vous souhaiterai toujours ce qu'il y a de meilleur sur ce globe terrestre. Si ma lettre parvient jusqu'à vous, écrivez-moi quelques lignes pour que je sache que vous l'avez reçue. Vous rendrez par là très heureuse votre fidèlement dévouée, Émilie. Postscriptum. Je vous ai écrit en allemand. Je n'aurais pas pu exprimer en une autre langue tous les sentiments qui m'oppressent, mais vous pouvez m'écrire en russe. « Eh bien, lui avez-vous répondu ?» demandâmes-nous au lieutenant. « On a eu souvent l'intention, mais comment écrire ? Je ne sais pas l'allemand, et quant au russe, quoi qu'elle en ait dit, il eût fallu se faire traduire. Alors vous comprenez, cette correspondance, la dignité de l'épaulette, enfin, je l'ai pas écrit. » Et chaque fois qu'il achevait son récit, le lieutenant Yergunov hochait la tête, poussait un soupir. « Voilà, disait-il, ce que c'est que la jeunesse. » Et si parmi les auditeurs il se trouvait un office qui entendait raconter pour la première fois la célèbre aventure, il lui prenait la main, la posait sur son crâne et lui faisait tâter la cicatrice de sa blessure. Elle était énorme, en effet, et s'étendait d'une oreille à l'autre.